Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Léa Lisa Vesterov.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à l'OTAN et la défense européenne. L'invasion russe en Ukraine a redonné vie, relégitimé l'OTAN, cette alliance de pays d'Europe et d'Amérique du Nord, mise en place après la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide, afin d'assurer collectivement leur sécurité face à l'URSS. Diagnostiquée il y a quelques mois encore par le président français en état de mort cérébrale, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord est devenue, depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, le rempart contre la Russie de Vladimir Poutine. Pour preuve, les demandes d'adhésion express de la Finlande et de la Suède, deux pays qui, pendant des décennies, avaient fait le choix du non-alignement. L'OTAN est-elle donc l'unique garante de la sécurité européenne ? Que peut l'Europe face à une organisation militaire sous le parrainage des États-Unis ? La guerre en Ukraine sonne-t-elle le glas de la défense européenne ou est-elle une opportunité pour la relancer ? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Laurent Varlouzet, professeur d'histoire de l'Europe à l'Université de la Sorbonne et auteur d'Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance, paru aux éditions du CNRS. À mes côtés également, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie et qui vient de publier « La Russie, un nouvel échiquier » aux éditions Erol. Bonjour à vous, bienvenue.
Bonjour.
L'invasion brutale et illégale de l'Ukraine par la Russie a été un tournant pour la Suède et pour l'Europe. Cela a changé notre situation sécuritaire. Et après une analyse minutieuse avec les différents partis au Parlement, mon gouvernement, avec un large soutien parlementaire, a décidé que la Suède devrait déposer sa candidature à l'OTAN. Cette décision historique est une évidence, et mettre fin à 200 ans de non-alignement militaire n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais en tant que Première ministre, durant ce processus, c'est le plan d'action que je recommande pour garantir la sécurité de la Suède et je suis convaincue que c'est la bonne décision. Le fait que la Suède et la Finlande déposent leur candidature à l'OTAN au même moment renforcera la sécurité de nos deux pays, celle de la région de la mer Baltique, celle de l'Europe et celle de l'OTAN.
Pour NATO. Voilà, vous venez d'entendre la première ministre suédoise Magdalena Andersson. C'était la semaine dernière, le 13 juin, lors de la visite du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Stockholm. Alors, est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie marque un tournant majeur pour l'Europe et la situation sécuritaire européenne, Laurent Varlouzet, comme le dit Magdalena Andersson dans sa déclaration?
Oui, je crois qu'il y a... À la fois, on parle de retour de la guerre froide. Alors, ce n'est pas exactement le cas sur le plan idéologique, puisque la guerre froide, c'était vraiment un affrontement de deux modèles de société. Mais bon, il y a quand même des éléments d'affrontement stratégique qui font penser un petit peu à la guerre froide. Mais on voit bien que ça va au-delà avec cet exemple de la Suède qui revient sur une tradition qui remonte à Bernadotte, à 200 ans de neutralité. On peut en parler aussi des sanctions qui ont été assez inédites. Même la Suisse, je crois, a participé à certaines des sanctions. Donc oui, on est dans une rupture qui va peut-être au-delà de ce qu'on a pu connaître pendant la guerre froide, puisque même pendant la guerre froide, l'URSS reconnaissait la notion d'inviolabilité des frontières. C'était garanti à la conférence d'Helsinki de 75, qui sont évidemment violées, alors déjà en 2014, mais là de manière plus éclatante encore en 2022. Donc rupture sur le terrain et puis dans le champ diplomatique.
Jean de Glignasti, est-ce que l'architecture de sécurité européenne a été radicalement chamboulée avec l'invasion de l'Ukraine ? Vous êtes d'accord avec Laurent Varlouzet ou pas du tout ?
Ben, il n'y en avait plus. Le problème de l'invasion de l'Ukraine est justement la résultante de l'absence d'architecture de sécurité et de confiance en Europe, qu'avait noté d'ailleurs le président français en essayant d'en promouvoir une nouvelle. Quand on dit que les accords d'Helsinki ont été violés par la Russie, c'est vrai et c'est faux en même temps. Les accords d'Helsinki, ils avaient été élaborés en 1975, là, à un moment où il y avait deux blocs, où il s'agissait de respecter les frontières de chaque bloc pour éviter une guerre mondiale, en gros. Ensuite, il y a eu la chute de l'Union soviétique, il y a une partie du bloc soviétique qui est passée à l'Occident, il y a eu des problèmes de frontières, comme toute chute d'empire suscite des problèmes de démarcation et de définition, et même si le principe du respect des frontières issues de la colonisation est un grand principe qui s'applique toujours et qui est un principe pacificateur, il n'en reste pas moins que la chute d'un empire, comme l'Empire ottoman, comme l'Empire autrichien, ça représente 100 ans de malheur et de guerre et tout cela. Donc on a absolument besoin d'une architecture de confiance et de sécurité, parce qu'il n'y en a pas. Et les derniers restes qu'il y avait ont été détruits par Trump avec la dénonciation du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, qui était une sorte de filet de sécurité nucléaire sur l'Europe, et avec la dénonciation par les Russes du traité sur les forces conventionnelles en Europe, qui était aussi une limitation de force et qui interdisait en fait, en principe, une agression de type ukrainienne.
Pas d'architecture de sécurité européenne, dites-vous, et pourtant la Suède et la Finlande, tous deux membres de l'Union européenne, bénéficient à ce titre de la clause de défense mutuelle. C'est l'article 42 du traité de l'Union européenne. Cet article qui veut qu'en cas d'agression armée sur son territoire, les autres pays de l'Union européenne doivent porter assistance aux pays agressés. Et bien malgré cette clause de défense et de solidarité, la Finlande et ensuite la Suède ont tous deux jugé que seule l'OTAN pouvait les protéger efficacement contre une agression russe. Pourquoi, Jean de Lignasty? C'est la fameuse clause de sécurité collective?
Oui, je répondrai en citant Poutine, qui au moment de l'annonce de l'acceptation de la candidature ukrainienne, moldave et géorgienne, enfin par la Commission, a dit « Oh, c'est pas grave, parce que l'Union européenne n'est pas une alliance militaire ». Donc l'article 42, paragraphe 7 et autres, pour l'instant, n'a pas véritablement d'efficacité, d'effectivité, comme on dit, pour la grâce. En revanche, l'OTAN, l'article 5, jusqu'à la réélection de Trump ou l'un de ses sbires, a quand même une vraie signification. Le problème, c'est que pour la première fois depuis 1945, les Américains ont jeté le doute sur l'effectivité de l'article 5. Et donc, pour l'instant, Biden a reformé les rangs grâce à Poutine et grâce à l'invasion de l'Ukraine. Mais son successeur serait peut-être pas aussi soucieux de préserver les frontières européennes.
Pour nos auditeurs, l'article 5 de l'OTAN, c'est quoi?
Alors l'article 5, c'est le cœur en fait du dispositif de l'OTAN, puisqu'il implique, alors théoriquement, disons, une intervention automatique aux côtés, pas forcément militaire, aux côtés du pays qui est agressé.
Oui, que tous les membres se consultent pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et éventuellement intervenir aux côtés,
je crois
aussi
que
par voie militaire.
L'intervention, ce n'est pas uniquement une consultation, c'est une intervention, mais ce n'est pas forcément militaire.
Mais elle n'est pas automatique. Voilà. Il y a une réunion, mais l'intervention n'est pas automatique. Il y a cette clause de l'article 5, il y a aussi la dissuasion nucléaire. Laurent Varlouzet, vous êtes d'accord avec ce constat de Jean Glignassi? Il n'y a rien, cet article 42 de l'Union européenne.
Disons qu'on est dans une situation intermédiaire, puisque à l'origine, il y avait une répartition des tâches. La CEE, Communauté économique européenne, Union européenne, bon, on s'occupait essentiellement des aspects économiques, sociaux, environnementaux. Et puis on avait l'OTAN pour la défense et l'OSCE, quand même, qui est issu d'Helsinki, CSCE, OSCE, qui devait traiter normalement ces questions de sécurité européenne, mais qui surveille des élections, qui a un rôle, mais bon, qui n'a pas ce rôle de ce forum de dialogue pan-européen qui aurait peut-être été utile pour désamorcer ce type de conflit.
Donc, vous avez l'air de dire qu'il y a des institutions qui existent, mais en réalité,
oui,
elles sont jugées, insuffisantes.
Voilà.
Pourquoi?
Oui, alors, mais surtout, là, ça c'était la division idéale, et puis il y avait le Conseil de l'Europe aussi qui s'occupe des droits de l'homme, mais en fait, de facto, certaines de ces institutions ne fonctionnent pas ou mal. Bon, l'OSCE, le Conseil de l'Europe fonctionne pour les pays comme le nôtre, mais pas pour la Russie, qui en était membre, hein, jusqu'en être expulsé régulièrement. Et donc, du coup, l'Union européenne a adopté, en fait, de plus en plus de compétences pratiques ou théoriques. Et notamment en matière de défense, il y a cette clause de solidarité, mais qui est complètement théorique. Qui n'a jamais été utilisé, sauf, je crois, pour les attentats de 2015. Oui. Mais on se doute bien que ce n'est pas l'Union européenne qui va venir à notre secours si on est attaqué, mais plutôt l'OTAN. Et il faut rappeler que l'article 5 de l'OTAN, il a été demandé par notamment les Français, les Britanniques, par les Européens en fait, de l'Ouest, hein, qui étaient très atlantistes à l'époque, puisqu'il y avait la peur déjà de la Russie soviétique. Alors peut-être une peur qu'aujourd'hui on peut juger excessive par rapport... Mais voilà, à l'époque c'était l'URSS de Staline, et il y avait des événements, le blocus de Berlin, la guerre de Corée, qui ont fait que les Européens voulaient avoir des réassurances automatiques des États-Unis, et c'est les États-Unis qui ont accordé un article qui leur laissait quand même le choix des modes d'intervention. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Gnasty, il y a l'obligation d'assistance, mais ensuite toute latitude est laissée à l'allié sur la mise en œuvre des moyens.
Et finalement, là aussi, l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois après les attentats de 2001. Voilà.
Et donc, voilà, l'idée, c'est que l'Union européenne, en théorie, fait de plus en plus de choses, mais il y a quand même toujours cette répartition des tâches Union européenne OTAN.
L'adhésion de la Finlande et de la Suède n'est pas encore effective. Loin de là, hein, le processus pourrait prendre jusqu'à un an s'il n'y a pas de blocage majeur. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement en termes d'architecture sécuritaire, justement, Laurent Varlouzet ?
Je pense que déjà, donc, là, peut-être sur un plan historique, c'est un signal important que des pays comme la Suède, qui sont vraiment neutres depuis plusieurs siècles, choisissent de renoncer à cette neutralité. Et d'autre part, sur le plan stratégique, ça permettra de transformer la mer Baltique, à l'exception de Kaliningrad, en une mer européenne. Je crois qu'il y a déjà des coordinations qui existent entre la Suède et l'OTAN, mais bon, ça les renforcera encore. Donc ça peut effectivement homogénéiser le flanc nord de l'OTAN, mais bon, c'est surtout un signal politique, je pense, qui est donné.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire le fait que l'OTAN soit attractive, l'OTAN redevienne l'encre de la sécurité militaire pour les Européens, parce qu'on considère que des arrangements de neutralité, qui sont quand même des arrangements internationaux, ne sont plus suffisants. Donc que la communauté internationale, finalement, n'est plus suffisante pour garantir l'intégrité d'un pays. Alors que la Suède, par exemple, n'avait même pas été envahie par l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, grâce à sa neutralité. Donc considérer que ce qui a pu servir contre l'Allemagne nazie n'est plus utile aujourd'hui, c'est quand même un pas important. Donc je crois que le signal politique est fort. Après, sur le plan militaire, je ne suis pas un expert, je pense que ça peut renforcer l'OTAN, mais je ne pense pas que ce soit décisif d'avoir la Suède et la Finlande.
L'entrée, en tout cas, de la Suède et de la Finlande ferait de la Baltique une mer OTAN à laquelle la Russie n'a accès que par Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Alors, on l'a vu ces derniers jours, les tensions croissantes avec la Lituanie autour de l'enclave de Kaliningrad, justement, qui est le seul accès de la Russie à cette mer Baltique. Est-ce que cette mer qui va se trouver entourée exclusivement de pays membres de l'OTAN ne risque pas d'exposer un peu plus les États baltes à la colère de Moscou, Jean de Glignasti ? Est-ce qu'on ne s'apprête pas à avoir entrer une paire de tensions avec une réaction de la Russie ?
Incontestablement. Le fait que la Baltique devienne une mer OTAN, comme vous l'avez dit à juste titre, et récemment les mesures d'embargo qui sont prises dans l'enclave ou l'exclave de Kaliningrad par la Lituanie sont des facteurs de tension considérables dont on n'a pas épuisé les effets. La Russie met toujours du temps avant de réagir. Donc, dans un premier temps, il y a eu une réaction plutôt, si je puis dire, encourageante. Ils ont dit « Oh, ben, on fera ça par bateau », etc. Puis je vois les dernières déclarations maintenant sont beaucoup plus fermes, Patrouchev, en disant « En temps et en heure, on prendra des réactions ». Et c'est clair que, honnêtement, je ne comprends pas très bien pourquoi les Lituaniens ont fait ça. Je pense que c'est une grosse bêtise, l'affaire de Kaliningrad. D'imposer les sanctions. Puisque, en fait, il y a pratiquement la moitié des marchandises russes qui ne peuvent plus accéder à Kaliningrad par route ou par fer. C'est pas uniquement le chemin de fer. Et alors qu'en fait, il y avait des accords avec l'approbation de la Commission qui mettaient un statut un peu particulier aux relations entre la Russie et Kaliningrad et aussi permettait le travail frontalier des citoyens et le voyage facile pour les citoyens russes de Kaliningrad. Peut-être que certains avaient l'espoir de les séparer un peu de la Russie, mais en tout cas, ça marchait et tout le monde était content. Or, je me souviens très bien, quand j'étais en Russie, la sensibilité épidermique de la question de Kaliningrad pour un certain nombre de hauts responsables qui sont très proches du pouvoir. Donc, je pense que c'est une bêtise et que c'est un élément de tension.
Pour revenir à notre sujet, donc il faut s'attendre à des tensions dans cette zone et surveiller la réaction des Russes.
Oui, et qui vont concerner les États baltes. Donc effectivement, vous avez la mer OTAN, plus le blocus partiel de Kaliningrad, ce sont des facteurs belligérants, incontestablement.
Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur l'OTAN et l'état de la défense européenne. Alors on l'a dit, bien que c'était encore inimaginable il y a quelques mois, deux nouveaux pays, la Suède et la Finlande, ont déposé une demande d'adhésion à l'OTAN le 18 mai dernier. Les deux membres de l'Union européenne, mais non alignés militairement, et ce même pendant la guerre froide, ont opéré pour ça un revirement stratégique radical. On le voit bien avec ce sondage. Avant l'agression russe contre l'Ukraine, les opinions favorables à une adhésion de l'OTAN s'élevaient à 27% en Finlande et à 30% en Suède. Depuis l'invasion, ce chiffre est monté à plus de 70% chez les Finlandais. Anne-Françoise Hiver, vous êtes notre correspondante en Europe du Nord. Bonjour.
Bonjour.
Cette décision de rejoindre l'Alliance transatlantique a-t-elle la même signification pour les deux voisins nordiques ?
Eh bien non, en fait, pour des raisons évidentes, géographiques d'abord, la Finlande partage 1340 km de frontière avec la Russie, la Suède n'en a aucune. Historique ensuite, avant son indépendance en 1917, la Finlande a été occupée par l'Empire russe pendant plus d'un siècle. Depuis, elle a dû affronter l'URSS à deux reprises, entre 1939 et 1944. De son côté, la Suède n'a pas connu la guerre depuis, tenez-vous bien, 1814, plus de 200 ans. C'est à cette époque d'ailleurs que le royaume suédois se déclare neutre, objectif éviter les conflits, mais au fil des décennies, la neutralité devient un élément clé de l'identité suédoise. En Finlande, au contraire, elle n'est qu'un outil adopté pendant la guerre froide pour rassurer l'immense voisin à l'est, d'où la rapidité avec laquelle l'opinion publique finlandaise a basculé en faveur de l'OTAN dès les premiers jours de la guerre en Ukraine.
Et ce n'est pas le cas en Suède ?
Pas tout à fait, non. Certes, une majorité en faveur de l'adhésion se dégage dans les sondages, mais elle est bien plus limitée qu'en Finlande. Les réticences y sont beaucoup plus importantes, chez les sociodémocrates, notamment actuellement au gouvernement. Réunis en congrès en novembre, ils avaient réitéré leur opposition à l'OTAN. Mais quand il est devenu évident que la Finlande allait déposer sa candidature courant mars, ils n'ont eu d'autre choix que de revoir leur position, et vite, d'autant que le Parlement avait basculé. La droite était déjà pour, l'extrême droite a fait savoir qu'elle soutiendrait la candidature suédoise si elle avait lieu en même temps que celle de la Finlande. Seuls les Verts et la gauche maintiennent leur opposition. Quant aux sociodémocrates, ils sont divisés. Si la direction du parti soutient l'adhésion, les opposants restent nombreux. Ceci rappelle l'engagement du parti en faveur du désarmement, son opposition aux armes nucléaires. Ils craignent aussi que la Suède perde son indépendance en matière de politique étrangère et se voit imposer un agenda par d'autres pays.
Les conditions évoquées par le président turc Erdogan pour approuver l'adhésion de la Finlande et de la Suède, ça nourrit cette crainte finalement ?
Oui, tout à fait. Ceux qui étaient contre la candidature suédoise remarquent qu'il est en train de se produire exactement ce qu'ils craignaient. Ankara réclame des changements législatifs en Suède, ainsi que l'expulsion de terroristes présumés, la levée des restrictions sur les exportations d'armes. Stockholm va devoir faire des concessions, mais à quel prix ? La situation est d'autant plus complexe pour le gouvernement que 100 000 Kurdes vivent en Suède et 8 députés ont des origines kurdes. Parmi eux, Amineh Kakabaveh, députée indépendante et faiseuse de majorité au Parlement. Elle a d'ailleurs prévenu, si le gouvernement veut son soutien pour le budget, il va falloir qu'il s'engage à défendre les droits des Kurdes. De quoi alimenter encore un peu plus la colère du président Erdogan.
L'adhésion de la Suède et de la Finlande ne va pas être si simple, on le comprend bien à l'écoute de ces explications. Quelle importance faut-il accorder, Laurent Varlouzet, à l'opposition que manifeste le président turc Recep Tayyip Erdogan à ces nouvelles adhésions ?
Je pense qu'il y a différents types d'opposition interne qui sont intéressantes à évaluer au-delà du consensus lorsque la sidération nous a tous pris lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février. Ensuite, derrière une unité de façade, des divisions apparaissent. Donc là, la division entre le président Erdogan et les Suédois est assez claire au niveau de l'OTAN. Mais il y a aussi des divisions internes qui ont été évoquées dans le reportage qui sont très intéressantes et qui peuvent sans doute se retrouver dans beaucoup de pays. Là, en Italie, le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a quitté son parti, le mouvement 5 étoiles qu'il avait présidé pourtant, puisque lui est favorable au soutien à l'intervention en Ukraine, alors que son ancien parti est plus pacifiste. Donc c'est quand même un signal important que le ministre des Affaires étrangères quitte le parti qu'il avait présidé. Bon, en France, on a réélu Emmanuel Macron, mais bon, les deux autres grandes personnalités politiques françaises qui a obtenu 20% des voix au présidentiel, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ne sont pas forcément sur la même ligne. Donc je pense que dans tous les pays, si le conflit perdure, on peut être amené à avoir le même type de débat que ceux qui sont décrits aujourd'hui en Suède.
On l'a vu lors des rencontres ces derniers jours entre le secrétaire général de l'OTAN et les autorités turques et suédoises. Les compromis risquent d'être difficiles à trouver. À supposer que cette obstruction persiste, quel serait le scénario, Jean de Glignassy ?
Moi, j'en vois pas beaucoup. Moi, je vois la persistance de l'incapacité de trancher la chose. Comme la Finlande a dit qu'elle ne travaillerait qu'avec la Suède, elle ferait exactement la même chose que la Suède, et pas individuellement. Et que malgré tout, sur le plan stratégique, ils doivent bien savoir que la période la plus difficile pour un pays, c'est la période qui court à partir du moment où on a dit qu'on allait rentrer dans l'OTAN et l'entrée effective dans l'OTAN. Parce parce que c'est là que l'article 5 ne rentre pas en vigueur, c'est un peu ce qui est arrivé à l'Ukraine, toute proportion gardée. Donc ils sont dans une phase de vulnérabilité. Et donc,
avec des garanties de l'Europe,
la garantie de l'Europe dont on a dit tout à l'heure ce qu'elle valait, pour l'instant en tout cas. Alors les Russes n'ont pas mis d'huile sur le feu pour l'instant. Et, en fait, il y a eu un contact entre le président finlandais et le président russe. Et apparemment, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas de base de l'OTAN à la frontière. Donc ça, c'est déjà important pour les Russes. Donc en fait, techniquement, ça ne changera pas grand-chose à partir du moment où il n'y a pas une présence physique de l'OTAN.
Oui, la Suède a déjà dit qu'il n'y aura pas de présence physique. Oui.
Voilà. Donc, on peut espérer que ça, plus la discussion en cours, ça n'aggravera pas la situation.
Il y a la possibilité de contrepartie, puisque le président Erdogan a bien dit que si on le laissait acheter des F-35 américains ou si on levait l'embargo suédois sur les armes, il pourrait revoir sa position.
Oui, j'admire beaucoup la souplesse d'Erdogan. C'est une grande diplomatie turque, une diplomatie qu'on pourrait qualifier de gaulliste, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire, en fait, il mange à tous les râteliers et il obtient le maximum qu'il peut de tous les côtés. Donc, s'il obtient suffisamment, ça ne lui coûtera rien de faire rentrer la Finlande et la Suède. Ce n'est pas forcément, effectivement, impossible que l'affaire se règle. Mais bon, pour autant que je vois, les Suédois sont prêts à remonter. Hein, donc, ils ne sont pas très... je parle sous le contrôle de votre correspondant, tous ceux qui connaissent mieux M. Varlouzet, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire des concessions à Erdogan.
En tout cas, le processus pourrait être en effet plus long, puisque le principe de l'adhésion à l'OTAN, c'est un système par consensus. Donc, pour qu'un nouvel État intègre l'OTAN, il faut que tous les membres soient d'accord. Le sommet de l'OTAN, qui se tient à Madrid mercredi et jeudi prochain, va bien sûr se pencher sur les candidatures de la Suède et de la Finlande. On l'a compris, Recep Tayyip Erdogan traîne des pieds et vient casser l'unité ou l'unanimité que l'OTAN aimerait afficher face à la Russie et ses nouvelles adhésions. Je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondante en Turquie, Anand Loer. Elle a pris le pouls de l'opinion turque face au positionnement de la Turquie, justement.
Alors que ses alliés de l'OTAN l'appellent à la solidarité face à l'invasion russe de l'Ukraine, la Turquie accuse, justement, la Suède et la Finlande de ne pas se montrer solidaires de sa propre lutte contre le terrorisme. Le président Erdogan reproche aux deux pays nordiques de soutenir le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et son émanation syrienne, les YPG, contre lesquels l'armée turque a mené plusieurs opérations, d'abriter sur leur sol des individus recherchés par la Turquie et d'imposer un embargo sur les ventes d'armes à son pays. Il exige des gestes concrets, des contreparties, faute de quoi la candidature de Helsinki et de Stockholm devra s'éterniser plus d'un an s'il le faut. Tayyip Erdogan est d'autant plus encouragé dans son intransigeance qu'il recueille le soutien d'une large partie de la population. Tolga, un ingénieur de 42 ans, dit n'avoir jamais voté pour l'actuel président, mais il lui donne raison.
On nous demande d'être solidaires, mais la Turquie est restée très seule ces dernières années au sein de l'OTAN. Nous avons affronté de graves menaces à nos frontières sud, notamment avec la Syrie. Non seulement les autres membres de l'OTAN ne nous ont pas soutenus, mais ils ont refusé de nous vendre des armes au moment même où nos soldats mouraient dans des opérations pour lutter contre ces menaces. Je trouve tout à fait normal et juste que la Turquie s'oppose à l'intégration dans l'OTAN de pays qui ne se tiennent pas à ses côtés et ne se montrent pas sensibles à ses préoccupations.
La Suède et la Finlande répètent qu'elles considèrent aussi le PKK comme un groupe terroriste, mais que leur législation ne leur permet pas d'empêcher sa propagande ou d'extrader un individu qui n'a pas été condamné par leurs tribunaux. Tolga refuse d'entendre cet argument, et tant pis si cela nuit à l'image de la Turquie au sein de l'Alliance Atlantique.
Avant d'envoyer des soldats turcs pour défendre ces pays en cas d'attaque, il faudrait d'abord qu'ils respectent nos propres sensibilités en matière de sécurité. Je pense que la Turquie a parfois du mal à expliquer ses positions à ses alliés, mais je pense aussi que nos alliés ne font pas beaucoup d'efforts pour nous comprendre. La Turquie est un pays qui compte. Elle représente la deuxième armée de l'OTAN. Nous sommes l'un des pays qui soutient le plus l'Ukraine face à la Russie en lui envoyant des drones de combat pour se défendre. De plus, grâce à nos bonnes relations avec les deux pays, c'est à Istanbul qu'ont pu se tenir les dernières négociations de paix russo-ukrainienne.
Du fait de sa position d'intermédiaire privilégié entre Kiev et Moscou, la Turquie se sent en effet en position de force sur la scène internationale et Tayyip Erdogan combien en profiter pour imposer ses vues. Le président turc a aussi promis de lancer bientôt une nouvelle nouvelle offensive contre les forces kurdes en Syrie et annoncé qu'il scruterait les réactions au sein de l'OTAN pour constater quels pays sont solidaires de la Turquie. Député du principal parti d'opposition, le CHP, l'ancien ambassadeur Ünal Çevikoz n'est pas tendre avec la Suède et la Finlande, mais il déplore la méthode du président Erdogan.
Il s'agit de problèmes dans les relations de la Turquie avec ces pays. Donc la Turquie devrait exprimer ses attentes et tenter de trouver une solution dans le cadre de ses relations bilatérales. Dans le même temps, elle devrait saisir l'occasion du sommet de l'OTAN, au cours duquel l'Alliance définira son nouveau concept stratégique, pour faire inscrire dans les documents de l'OTAN ses sensibilités en matière de lutte contre le terrorisme et de définition du terrorisme international. Mais dire « la Suède et la Finlande n'ont qu'à changer leur politique s'ils veulent qu'on les accepte dans l'OTAN », c'est à mon sens une erreur de politique étrangère, une erreur tactique.
Erreur ou pas, Tayyip Erdogan maintient le cap et il est d'autant plus poussé à se montrer inflexible et à faire vibrer la corde nationaliste qu'il affrontera les urnes dans un an, en juin 2023, au cours d'élections présidentielles et législatives qui s'annoncent risquées pour lui.
On l'entend, la défiance et la déception vis-à-vis du reste de l'OTAN en Syrie notamment est profonde. En Turquie, l'OTAN va-t-elle payer cher ce raté, Laurent Verlouzet ?
C'est difficile à dire. Ce qui est, en tout cas, ce qui transparaît là, dont je trouve évidemment dans ces interviews, et c'est une vérité d'évidence s'agissant de la Turquie, c'est que bon, c'est un ancien empire et on voit bien que Erdogan renoue un petit peu avec ses ambitions ottomanes. Et c'est là aussi que la comparaison de Jean de Guignasti avec la France gaulienne est intéressante aussi, puisque nous aussi on est un ancien empire et c'est pour ça que la France a des positions propres qui peuvent parfois choquer ses partenaires et qui sont différentes de celles des Américains, des Allemands. Alors pendant longtemps c'était en Afrique, on avait une politique particulière. Mais c'est vrai qu'il y avait en même temps une intégration de la France dans des organisations européennes qui faisait qu'on avait quand même une pratique du multilatéralisme quand même assez forte, quotidienne, même si on parlait fort et haut. On pouvait vexer un petit peu nos partenaires, mais on veillait quand même à ne pas couper les ponts et à ne pas être complètement dans une logique impériale et dans une logique aussi transactionnelle.
Quelle est votre réaction, Jean de Guignasti ? La Turquie va-t-elle pouvoir garder ce positionnement dur, sachant qu'elle a montré son importance pour pouvoir maintenir notamment la communication avec la Russie ?
La Turquie a des atouts considérables. Elle fait une analyse du monde qui est une analyse multipolaire, que malheureusement la France ne fait plus, puisque autrefois c'était la base de l'analyse gaulliste. Maintenant, c'est une conséquence d'ailleurs de l'invasion en Ukraine, c'est qu'on est ramené à notre corps défendant dans le camp occidental sans nuance, et on ne peut pas faire autrement, et puis c'est nécessaire d'une certaine façon, alors que la Turquie ne se sent pas liée par tout ça. Et donc elle fait l'analyse d'une planète où il y a des pôles de puissance qui apparaissent, dont l'OTAN n'est un des facteurs, et donc elle joue avec la Russie. On l'a vu très bien la façon au moment où les Turcs ont abattu un avion russe, ça devait être en 2016. Il y a eu une crise qui a duré 6 mois, et puis ça s'est réglé très très bien, et il n'y a pas eu de problème. Les Russes ont tapé très fort, les Turcs ont dit c'était une erreur, et puis finalement maintenant ils se sont mis d'accord pour régler dans le groupe d'Astana la question syrienne. Donc régler finalement au bénéfice de Bachar el-Assad, là les Turcs ont été un peu perdus, puisque a priori ils soutenaient les rebelles. Donc je pense qu'ils vont négocier, comme faisait le général de Gaulle, en fonction de leurs intérêts, avec une palette très large, sans, j'allais dire, scrupules, c'est pas le mot, mais ils peuvent négocier avec les Russes. Peut-être que les Russes leur ont donné des gages en disant continuez à tenir bon, on n'a pas envie que la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN, et en échange de quoi les Turcs auront tenu peut-être quelque chose. Je n'en sais rien, c'est une pure hypothèse, mais en tout cas, ils vont négocier pour le plus grand intérêt de la Turquie et des Turcs.
Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur l'état de santé du traité de l'Atlantique Nord et de la défense européenne. L'OTAN est-elle l'unique garante de la sécurité européenne? La guerre en Ukraine sonne-t-elle le glas de l'autonomie stratégique européenne ou pourrait-elle être une opportunité pour obliger les États européens à mieux coopérer? Pour en parler avec nous, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, et Laurent Varlouzet, professeur d'histoire de l'Europe à l'Université de la Sorbonne. La guerre en Ukraine a révélé la faiblesse structurelle de l'appareil sécuritaire européen. On le disait, on a vu la puissance de Washington en termes de réactivité et de quantité pour fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. Même si l'Europe fournit des armes, c'est peu par rapport aux États-Unis. Et pour se défendre, la Finlande et la Suède ont jugé plus efficace de demander à rejoindre une organisation de défense parrainée par les États-Unis plutôt que de se fier uniquement à l'Europe. Laurent Varlouzet, vous qui êtes spécialiste de l'histoire européenne, la résurrection de l'OTAN, est-ce qu'elle est synonyme de réquiem pour l'autonomie stratégique européenne ?
C'est tout l'enjeu. Donc sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, effectivement, peut-on créer une autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire définir des buts de guerre, ou en tout cas des objectifs de sécurité différents des États-Unis ? Ça paraît... possible sur certains espaces extra-européens, peut-être l'Afrique, mais compliqué en général. Après, on peut peut-être essayer de réfléchir au moins à une autonomie en termes industriels. Et là, ça irait un petit peu dans le sens de tendance que j'identifie un petit peu dans mon livre Europe contre Europe sur le regain un petit peu de la politique industrielle dans différents pays et un petit peu à l'échelle européenne.
Politique industrielle de défense.
Politique industrielle de défense, c'est-à-dire en essayant de rationaliser les systèmes de défense. Hein, on cite quelques exemples dans l'article. Je crois qu'il y a 12 chars, par exemple, d'assaut en Europe contre un aux États-Unis. D'autres exemples ont été donnés. Donc, évidemment, c'est très difficile à faire. C'est une idée ancienne qui avait déjà été avancée dans les années 60 et qui suppose donc, de la volonté politique, de la volonté industrielle et aussi une volonté de se dissocier un petit peu des États-Unis sur certains projet vraiment stratégique. Et c'est pas évident, puisqu'on a bien vu que l'une des premières réactions après l'invasion du 24 février des Allemands, c'était d'acheter des Typhoon, mais aussi des F-35 américains, puisque c'était les seuls vecteurs évidemment aptes à porter l'arme nucléaire américaine. Donc les deux éléments sont liés, l'autonomie stratégique, l'autonomie industrielle, mais on peut peut-être progresser peut-être un peu plus sur l'autonomie industrielle que sur l'autonomie stratégique ou inversement, mais voilà, on peut quand même, si on a une vision un petit peu optimiste, considérer qu'on peut à la fois faire, si j'ose dire, l'Europe atlantique stratégique et l'Europe de la défense militaire industrielle un petit peu plus européenne qu'elle n'est aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des instruments, quelques instruments maintenant de la Commission qui prévoient la possibilité d'accorder des financements uniquement à des entreprises européennes, ce qui en fait est assez rare parce que la plupart des mécanismes européens de financement s'adressent à toutes les entreprises présentes sur le continent européen. Européen, qu'elle soit américaine, chinoise ou japonaise. Donc là, on a quelques instruments qui mettent en œuvre la notion de préférence européenne, ce qui est très rare. Alors, on va voir si ça va vraiment être mis en œuvre, mais ce serait une piste déjà pour faire émerger, si ce n'est une défense européenne, au moins une industrie de la défense européenne.
Jean de Glignasti, qu'en pensez-vous en tant que directeur de recherche de l'IRIS? Est-ce que la fenêtre d'opportunité pour la défense européenne s'est refermée avec le conflit en Ukraine?
Elle s'est refermée pour un temps. Pour l'instant, nous sommes dans la phase où, effectivement, comme vous l'avez dit, seuls l'OTAN et les États-Unis donnent une protection suffisante et un soutien suffisant à l'Ukraine. Donc, effectivement, la notion d'autonomie stratégique est passée au deuxième plan, on n'en parle presque plus. On parle de redéfinir un peu la boussole stratégique. Donc, tous ces grands thèmes portés par la France sur l'autonomie de la politique de défense européenne sont passer au deuxième plan. Alors ensuite, il faut voir, à supposer que ça repasse au premier plan, parce qu'il suffit qu'il y ait dans 2 ans des élections et que le prochain président américain dise l'article 5, c'est pas si important que ça, pour que aussitôt les pays qui sont les plus véhéments en matière de rapprochement avec l'OTAN se rendent compte, comme l'a un moment été la Pologne, que finalement la défense européenne ça a du bon. Donc on aura une nouvelle phase. On a fait plus de progrès en 4 ans de Trump pour la défense européenne pendant les 20 ans précédentes, parce que Trump avait dit que l'article 5 c'était bizarre et que tout ça était obsolète, etc. Donc, mais il y aura d'autres difficultés. C'est que l'Europe est partagée sur le fond, à la fois sur la question ukrainienne et sur la question de l'architecture de sécurité. Sur la question ukrainienne, vous avez en gros les pays baltes, la Pologne et quelques pays comme la Tchécoslovaquie ou la Roumanie qui sont sur une ligne dure et qui veulent aller jusqu'au bout et qui sont contre le maintien d'une filière de négociation spécifiquement européenne. Et ce sont les mêmes qui, même si la filière de négociation européenne est incarnée, si je puis dire, par la France, l'Italie et l'Allemagne, ces mêmes pays-là, et ça, il faudra se méfier le moment venu, si par hasard le thème de la défense européenne revient sur le devant de la scène, pour ces pays-là, le leader de la défense européenne, contrairement à ce qu'on croit, nous, pauvres Français, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, à la fois sur le plan industriel, et c'est à la fois sur le plan militaire. Et donc, eux, ils voient une défense européenne, et dans l'hypothèse où ils la verraient en cas de défaillance américaine, eh bien, ça serait une défense allemande. Et là, ça poserait un problème de fond pour l'Europe et pour la France.
Le sommet de l'OTAN de la semaine prochaine va permettre aux 30 pays membres de se pencher justement sur le concept stratégique de cette organisation de défense militaire et politique, relégitimée, on le disait, au point de mettre de côté ces dernières semaines la question du financement qu'il a empoisonné ces dernières années. Franceline Beretti a fait les comptes pour nous, c'est son œil européen.
Qui paye pour l'OTAN ? Il y a les contributions directes des États, environ 2,5 milliards d'euros, divisés entre les alliés selon leurs moyens. Cet argent sert au fonctionnement de l'organisation. Mais le gros du financement, ce sont les capacités affectées à l'OTAN par les pays pour les opérations militaires communes. Donc, la puissance militaire de l'Alliance dépend de celle des armées nationales, que les pays financent ou pas, déplorait Donald Trump en 2018.
NATO members must finally contribute their fair share.
Il est temps que les pays de l'Alliance payent leur part et respectent leurs obligations financières. 23 des 30 États membres ne paient toujours pas ce qu'ils devraient payer, ce qu'ils sont supposés payer pour leur défense.
Aujourd'hui, ces 30 États membres et Washington payent encore pour les autres. Si tous les pays membres hors États-Unis ont une production de richesses comparable aux Américains, ce groupe consacre moitié moins que Washington à la défense. Pourtant, en 2006, les gouvernements se sont mis d'accord pour consacrer 2% au moins de leur PIB à la défense. 15 ans plus tard, seuls 8 pays respectaient cet engagement. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, qui a même fait bouger le nain militaire allemand. L'ancienne ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a exprimé son impatience sur Twitter.
Je suis tellement en colère contre nous parce que nous avons historiquement échoué. Après les conflits en Géorgie, en Crimée et dans le Donbass, rien n'a été préparé qui aurait vraiment dissuadé le président russe Vladimir Poutine. Nous avons oublié la leçon de Schmitt et Kohl, à savoir que les négociations ont toujours la priorité, mais qu'il faut être tellement fort militairement que la non-négociation ne peut pas être une option pour l'autre partie.
Pour l'Allemagne, ces propos sont une révolution, explique Ali Laïdi sur France 24.
L'Allemagne qui a annoncé quand même un virage, là aussi à 180 degrés, 100 milliards dans les deux prochaines années consacrés à la défense. Pourquoi faire ? Pour acheter des F-35 américains, pour acheter des hélicoptères lourds américains, pour acheter des patrouilleurs américains. Donc évidemment, ça va poser un certain nombre de problèmes au sein de l'Europe.
Oui, mais ils ne sont pas les seuls. Écoutez ce témoignage d'un pilote de l'armée belge. 4000 heures de vol aux manettes d'un F-16, l'avion de chasse américain.
4000 heures, c'est surtout atteint parce que l'avion le permet, quoi, parce que l'avion est sans arrêt modernisé, parce qu'il est multirôle, il faut sans arrêt se remettre en cause et en question, parce qu'un avion qui n'évolue pas, vous savez, j'imagine bien qu'après 10 ans passés dessus, ben, il y a aussi un manque d'intérêt. Donc là, ben, oui, c'est un avion exceptionnel quand même.
Pourvu que les Français et leurs Rafales n'entendent pas cette belle pub pour le F-16. Les États-Unis ne sont donc pas perdants financièrement sur tous les plans avec l'Alliance Atlantique, vu qu'ils en sont le fournisseur. L'OTAN dépend d'eux pour certaines capacités essentielles. Le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, le ravitaillement en vol, la défense antimissile balistique, la guerre électronique. Cela veut dire que pour se défendre, les autres dépendent de Washington. L'Europe peut-elle prétendre à une indépendance politique sans défense commune ? Pour les anciens pays du bloc de l'Est, la question ne se pose pas. Face à Moscou, ils veulent Washington, à Bruxelles. Et ça se comprend. L'idée d'une défense européenne existe depuis les années 1950 et elle n'a jamais abouti. On verra si le Fonds européen de défense, avec ses 8 milliards d'euros entre 2021 et 2027, pourra permettre aux industriels européens de travailler enfin ensemble.
Laurent Varlouzet, je me tourne vers vous. Le Fonds européen de défense qui doit financer des projets communs en matière de défense, c'est une piste pour travailler une stratégie de défense commune en Europe ou c'est insuffisant?
Oui, c'est ce dont je parlais. En fait, c'est un fonds qui est à la rencontre de plusieurs dynamiques, celle dont parlait Jean de Glignasti, sur le plan stratégique, la crainte de voir l'allié américain faire défaut sous Donald Trump, et puis un espèce de regain d'intérêt pour la politique industrielle, y compris chez les Allemands, qui se méfiaient beaucoup de cette thématique, depuis 2016-2017. D'ailleurs, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui s'est exprimée ici, critiquait cette réorientation. En 2019, il y a eu un mémorandum commun, là, dont je parle dans mon livre, entre les ministres français et allemands de l'économie.
Tout a changé avec l'Ukraine.
Voilà, pour amener une politique industrielle européenne, alors pas dans le domaine de la défense, mais une politique européenne un petit peu plus affirmée. Alors, ce n'est pas du tout un document protectionniste. Et Annegret Kramp-Karrenbauer l'a critiqué comme étant trop dirigiste. Donc, bon, c'est assez facile de donner des leçons a posteriori sur la nécessité d'affirmer l'identité européenne. Bon, mais plus fondamentalement, ce que ça pose. Alors, déjà, il y a le débat que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut peut-être avancer sur l'Europe de l'industrie de la défense sans se mettre d'accord sur l'Europe stratégique, puisque là, il y a des désaccords. Et les désaccords, ils portent, on l'a bien entendu, un sur. Voilà, l'allié de référence, bon, bah, ça reste les États-Unis. Il faut se mettre aussi à la place des Européens de l'Est. La Pologne avait un traité d'alliance avec la France depuis 1919. Et puis quand l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline m'ont envoyé la Pologne en 1939, bah, nous, on n'a rien fait. On appelait ça, nous, la drôle de guerre. Et c'était pas très drôle pour les Polonais.
On a déclaré la guerre, quand même.
On a déclaré la guerre, oui, tout à fait. Mais je veux dire, on n'a pas attaqué l'Allemagne.
Ça s'est fait sous la tutelle des États-Unis qui sont venus.
Alors, les États-Unis n'étaient pas belligérants à l'époque, mais les Polonais se rappellent de ça, se dire l'Europe de la défense par la France, on a déjà eu l'alliance française dans l'entre-deux-guerres, ça n'a pas fonctionné. En fait, je ne dis pas qu'aujourd'hui la situation est la même, mais je pense que c'est des éléments qui sont importants à retenir si on veut essayer de comprendre nos compatriotes d'Europe de l'Est. Et l'autre élément, juste, c'est que même si on se met d'accord sur les poids respectifs des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, il y a la doctrine d'intervention. Et là, bon, Nathalie Loiseau l'avait dit fort plaudidement, diplomatiquement, surtout pour une ancienne diplomate, beaucoup d'Européens veulent que l'Union européenne soit une espèce de grosse Suisse molle, c'est-à-dire une espèce, essentiellement une zone de libre-échange, de prospérité, avec des normes environnementales élevées, mais bon, qui se préoccupe le moins possible de conflits extérieurs. Donc, il faut se mettre d'accord sur la doctrine d'intervention, mais aussi sur la volonté d'intervention.
Vous disiez possibilité de développer une industrie de la défense commune, mais pourtant en 2021, 8% seulement des dépenses d'équipement militaire ont été consacrées à des investissements réalisés en commun, bien loin des 35% que les États membres de l'UE sont eux-mêmes fixés comme objectif. Donc là aussi, on a du chemin à faire.
Oui, non, mais c'est très difficile parce que bon, concrètement, ce que ça veut dire, c'est renoncer au principe du juste retour. Quand vous investissez dans un programme européen, vous avez envie d'avoir le même retour immédiat. Là, il faudrait globaliser globalement, dire voilà, j'investis dans tous les programmes européens, mais j'accepte que mon pays, par exemple, de payer pour un programme européen d'hélicoptères, mais j'accepte que mon pays ne fabrique aucun hélicoptère, par exemple. Bon. Mais par contre, je demande que mon pays fabrique, mettons...
Pour faire des économies d'échelle.
Quasiment, je ne sais pas, tous les drones d'un certain type. Et donc ça, c'est très difficile à envisager, mais ce serait un petit peu le modèle théorique. Et là, des financements européens peuvent aider à mettre de l'huile dans les rouages. Et l'autre élément peut-être structurel, c'est aussi le coût croissant des équipements qui fait qu'on a intérêt à partager les coûts de recherche et développement et aussi à partager les marchés, puisque avant on pouvait produire des avions par centaines, par milliers. Maintenant, c'est quelques dizaines qu'on vend à droite et à gauche, donc on est obligé. D'ailleurs, là, on avait cité le F-16. Le F-16 avait raflé aussi le marché du siècle à l'OTAN. C'était, je crois, contre le Mirage F1. Bon, aussi parce que c'était sans doute un excellent avion, mais c'est aussi que l'avion avait déjà été rentabilisé dans le marché américain. On était vendu à des centaines d'exemplaires, donc il y a un décalage aussi de puissance industrielle auquel il faut qu'on essaie de s'attaquer.
Oui, ce sont des investissements extrêmement lourds. Les dépenses de défense combinées de l'Union européenne n'ont augmenté que de 20% ces 20 dernières années, contre 66% pour les États-Unis, près de 300% pour la Russie et 600% pour la Chine. Est-ce que c'est rattrapable, Jean de Glignasti, ou est-ce que l'Europe est vouée à rester ce géant économique, nain politique et ver de terre militaire, comme l'avait qualifié il y a plus de 30 ans Marc Esquens, ancien ministre belge des Affaires étrangères?
Je ne connaissais pas la citation, mais elle est bonne. Je ne crois pas qu'il faille se fixer, surtout sur l'Europe, sur les budgets. Parce que si, dans l'esprit de Trump, les 2%, c'était pour acheter du matériel américain. Je préfère que l'Europe ne fasse que 1% et qu'elle réussisse le Fonds européen de défense. Et qu'elle, il était prévu pour 7 milliards, il en fait un peu plus de 4 maintenant. Hein, parce que les pays n'en voyaient pas l'utilité, ils ne voyaient pas l'utilité d'une industrie de défense. Donc déjà, l'industrie de défense européenne, avec les marchés européens, les modèles européens, c'est quand même la priorité, et si on réussit ça, ça sera déjà beaucoup, avec même peu d'argent, ça serait pas mal. Ensuite, c'est clair que malgré tout, il faut augmenter ses capacités de défense. Alors, il n'y a pas de politique de défense commune. Pour l'instant, ce sont il faut le dire, les Américains et l'OTAN qui l'assurent. Hein, et ça correspond au vœu d'une majorité écrasante d'États de l'Union européenne. La France est très isolée, sur ce plan, très isolée. Honnêtement, je vois personne d'ailleurs qui pourrait éventuellement un tout petit peu les Belges parce que ils nous aiment bien, donc bon, mais je vois personne, nous sommes seuls. Donc pour l'instant, commençons, comme l'a dit très bien Laurent Varlouzet, commençons par avoir une industrie de défense européenne et à y consacrer plus d'argent que ce qu'on consacre à l'achat des F-35 et du matériel américain.
Vous vouliez parler du dispositif sécuritaire, Jean de Lignacy.
Alors, sur l'architecture de sécurité en Europe, je crois que ce thème, il est, comme on dit maintenant, incontournable. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, la guerre en Ukraine va s'arrêter par exténuation d'un des deux partenaires, voire des deux adversaires, plutôt que partenaires d'ailleurs. Bon, donc et à ce moment-là, il faudra réfléchir à quelque chose. Or, il y a eu un grand débat au début des années 90 sur l'instrument de la sécurité en Europe. Et à l'époque, d'ailleurs ça a été cité par le président de la République, à l'époque Mitterrand avait proposé une sorte de confédération européenne qui transcenderait en quelque sorte les alliances, l'OTAN. À l'époque, le pacte de Varsovie n'était pas encore supprimé. Et on a perdu la bataille diplomatique à l'époque, et une majorité d'États, notamment issus du bloc soviétique, une majorité de ces États a préféré en fait confier sa sécurité à l'OTAN. Or, ce qui était inévitable est arrivé, c'est-à-dire que l'OTAN, au lieu d'être une organisation de paix et de sécurité pour l'ensemble du continent, est devenue et redevenue, par la force des choses, un instrument d'alliance contre les ambitions russes. Et donc, nous n'avons pas de structure de sécurité. Malheureusement, l'OSCE ne peut pas remplir son rôle. Et donc, il faut réfléchir à cette nouvelle architecture de sécurité en Europe. Le problème, pour l'instant, c'est qu'effectivement, là aussi, comme pour la politique de défense, la France est assez seule. Le conflit en Ukraine en reporte l'échéance. Mais je pense qu'un certain nombre de pays seront raison gardée et que pour l'Estonie, qui est à 20 minutes de char russe entre la frontière et Tallinn, c'est peut-être plus rassurant d'avoir une structure de sécurité en Europe que de compter sur une intervention hypothétique de Marines en cas d'invasion russe. Et donc je pense que la notion de nouvelle architecture de sécurité en Europe est une notion d'avenir et qu'il ne faut pas lâcher ce cheval-là.
Pour conclure, et en quelques mots, Jean de Lignacy, est-ce que, et pour revenir au sujet OTAN, autonomie sécuritaire européenne, est-ce que l'Europe peut faire avec l'OTAN sans se marcher sur les plates-bandes, ou sont-elles forcément concurrentes ?
Pour l'instant, on n'a pas le choix. La seule façon de développer une défense européenne, c'est de développer le pilier européen au sein de l'Alliance Atlantique, avec l'idée qu'à un moment, l'Alliance Atlantique fera défaut, je ne dis pas l'espoir, mais garder en tête la possibilité qu'à un moment, les Américains disent « Bon, bah, c'est très bien, on reste un membre comme les autres. » Auquel cas, la situation sera un peu changée, parce que n'oublions pas, on le voit avec la Turquie, que l'OTAN est une organisation qui marche au consensus. L'influence américaine dans l'OTAN, elle est due à l'histoire, elle est due à l'importance du budget américain qui doit faire 7 ou 8 fois le reste des pays de l'OTAN, ou même plus. Et il est dû au fait que la diplomatie américaine est très affirmative. Mais le jour où les Américains se retireront, à ce moment-là, c'est une organisation consensuelle. Chaque pays a déjà sa voix. Et donc, on peut faire évoluer l'OTAN dans le sens qu'on veut. Mais il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, seul le développement d'un pilier européen de défense à l'intérieur de l'OTAN a des chances de semer la bonne graine pour une défense européenne.
C'est sur ces mots que se termine ce Carrefour de l'Europe consacré à la défense européenne. Merci à Ludivine Amado à la réalisation et merci à nos invités. Jean de Lignasti, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et Laurent Varlouzet, professeur d'histoire de l'Europe à l'Université de la Sorbonne. Merci à vous, à la semaine prochaine.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr.